La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
L'année scolaire tire à sa fin. Le bac est pour bientôt et nous allons meubler la culture de nos jeunes candidats en continuant à explorer le contenu et la signification des titres de jazz. Et nous en sommes à la fin de la lettre S.
Et on va se trouver devant Stool Pigeon Blues. Ça a une signification un peu multiple. Ça peut être un appât, ça peut être un piège. Et c'est en tous les cas probablement quelque chose qui est un piège pour appeler le voyou à se prendre dedans.
Oui, parce qu'en chasse, en fait, c'est un système à attirer le pigeon. Et il n'y a pas que dans la chasse qu'on attire les pigeons, comme tout le monde sait. Et en l'occurrence, c'est plutôt un langage d'argot policier qui désigne soit un indicateur, soit un type qui joue le rôle de chèvre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est le type qu'on met dans le décor et qui va faire sortir le gibier. Et vous allez entendre dans ce morceau un chanteur de blues très connu, un des plus grands chanteurs de blues, qui a connu un succès considérable dans les années 60 et 70. Il s'agit de Lightning Hopkins.
Good Lord, just let me live till tomorrow. I'm gonna send you another prayer. This is tape. Yes, till tomorrow. This black man gonna send you another prayer. You know, sometimes I begin to wonder, what in the world am I doing over here? You don't love me no more, baby, and I can't see the reason why. You don't love me no more, baby. Poor Lightning can't see the reason why. You know, I never told you no story, if you don't understand that. And I never have told you a lie. Yeah, the birds were singing, and the wind began to blow. Yeah, the birds were singing, you know the wind began to blow. You know when a pigeon John Denny went to singing, I never heard such a sweet voice before. You know, a pigeon mean more than one fly now. It can be stool pigeon, you know that. You know what that is? One sit on a stool and pimp to the law. That is a pigeon. I want everybody understand me so they know I just done give up and I ain't gonna try to live any life no more. Find no heaven here. Now no place on earth I go.
Nous voici devant un titre assez étonnant. Ça s'appelle Sweethearts of Sigma Chi.
Sweethearts, bon, ça se fout. Il y en a eu des tas qui s'appelaient Sweethearts. Pourquoi ? Ça veut dire les petits cœurs, les charmants, enfin tout ce qu'on peut vouloir dire de brave et de gentil, un peu amoureux.
Ah.
Et Sigma Chi, alors là, ce sont deux lettres grecques. Sigma, le S, et Chi, on va dire le K ou le CH, comme vous voulez.
Oui.
Et figurez-vous que ça a une grande signification en Amérique. Les Américains sont des gens très, très conviviaux. Ils aiment beaucoup être entre eux et surtout être entre eux dans la même catégorie sociale. Au point que quand quelqu'un progresse dans sa boîte et qu'il gagne plus d'argent, très souvent il déménage pour être avec les gens qui gagnent autant que lui. Curieux, hein ?
Ah ben, il y a une certaine mobilité en Amérique. Et alors le système des fraternités, qui est un véritable système, on l'appelle d'ailleurs le système grec, parce que les différentes fraternités sont toujours désignées par des lettres comme ça, mais Sigma Chi, c'est une des plus connues, des plus répandues. C'est une véritable chaîne qui va d'université en université, et qui, comme le dit pudiquement l'auteur du dictionnaire des titres, ne concerne que la strate supérieure de la classe moyenne blanche.
C'est-à-dire, en gros, les gens qui ont quand même un peu de fric.
Voilà.
Voilà. Mais ça a une énorme importance. Parce que, d'abord, on n'y admet pas n'importe qui. Entre autres, les étrangers, c'est très difficile d'y entrer dans une fraternité. Si on est un étudiant étranger, hein, bien sous tout rapport, mais... il faut être coopté, ce qui n'est pas forcément évident.
Et ça, c'est un honneur qui ne se refuse pas.
Certains jeunes Français étaient étonnés de voir les autres partir, faire des fêtes conviviales et tout. Et eux, ils n'étaient jamais conviés. Quand même, quelques-uns ont réussi à y rentrer. Non pas d'ailleurs, parce qu'ils l'ont demandé, parce qu'ils pouvaient toujours demander. Hein.
Ah, ça ne se demande pas.
Ça ne se demande pas. C'est simplement les autres qui viennent vous trouver en disant « viens ». C'est très, très rare.
Alors, généralement, le type qui ne connaît pas le terrain se pare de ses plus beaux atours, mais sa plus belle cravate. Et la première chose qui se passe quand il entre dans la réunion ou la fiesta de la fraternité, c'est qu'il se retrouve avec la cravate coupée et punaisée au plafond, avec des centaines d'autres cravates. Bon, ça, c'est pour le
fun.
Voilà, pour le fun et la petite histoire. Ça concerne des garçons et des filles, car il y a des fraternités et des sororités.
Mais attention, hein. Quand on dit fraternité, ils vivent dans le même bâtiment, avec des règles communes, assez strictes d'ailleurs.
Mais dans de très belles conditions.
Oui, mais c'est une sorte de pensionnat consenti.
Le morceau s'appelle donc « Sweethearts of Sigma Chi ». Alors, c'est des gens qui allaient flirter avec les membres de la sororité voisine, je suppose. Et ça a donné un morceau de jazz. Et là, nous avons dégoté un orchestre danois, assez typiquement scandinave, je dois dire. L'enregistrement n'est pas très ancien, c'est au tournant du siècle. Et il est à supposer que le leader, qui s'appelait Doc Hulind, avait fait ses études en Amérique et qu'il avait donc eu l'occasion de fréquenter la fraternité Sigma Chi d'un côté et avoir l'œil de l'autre sur la sororité du même tonneau. We'll be right back. Là, nous allons totalement changer de sujet. Tu sais que les titres de jazz, très souvent, sont liés à des circonstances. Par exemple, une tournée se passe dans telle ville, telle ville, telle ville, telle ville, telle ville. Puis un jour, on enregistre dans telle ville, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ? Un morceau comme ça, banal, qu'on a improvisé ou composé, vite fait, un petit embrief sur le moment. Et bien, on va l'appeler swinging in quelque part. Et là, bah, comme ça s'est enregistré à Biarritz, et bien, les musiciens l'ont appelé swinging in Biarritz, tout simplement. Mais ce n'est pas un morceau anodin, car il se rattache à une grande épopée cinématographique.
Oui, ça a été filmé. Et c'est pas très, très souvent, hein. Le jazz, il est beaucoup écouté, mais pas souvent filmé. Hein. Un peu plus maintenant. Hein,
puisque... oui, c'est vrai, mais pour beaucoup des concerts filmés, alors que l'intérêt de filmer le jazz, c'est d'aller un peu dans l'intimité musicale des gens et de les filmer autrement que dans leur costume de scène, dans des circonstances convenues. Et là, nous nous trouvons devant un grand film auquel nous avons eu le bonheur de participer en tant qu'assistant. Ce film s'appelait...
L'aventure du jazz.
En scène... l'organiste Milt Buckner et le batteur Joe Jones. Et je peux vous dire que ces deux-là, ils étaient vraiment totalement complices. Voici donc Swingin' in Biarritz. We'll be right back. Nous voici maintenant devant un titre étonnant qui s'appelle Swiss Chris, alliage d'un célèbre poignard indonésien et de la Confédération helvétique. Donc c'est plutôt insolite. Mais ça désigne un produit très particulier qu'on peut rattacher à une tradition médicinale des siècles antérieurs où on appelait ça prendre médecine. Autrement dit, de temps en temps, on prenait par hygiène un solide purgatif.
Ce produit-là, Louis Armstrong en faisait une intense publicité. On dirait quand même faire de la publicité pour un truc comme ça. Imaginez-vous qu'au cours d'une rencontre avec la reine d'Angleterre, on ne peut pas trouver plus pudique que les Anglais, n'est-ce pas? Eh bien, il lui en a non pas proposé, mais il lui a conseillé de s'en servir. Et je pense que la haute dame a dû être un petit peu sidérée qu'on ose lui proposer un truc comme ça. Mais il l'a fait en toute ingénuité.
Et en plus, ça se passait à table. Malheureusement, ça n'a pas été filmé, mais seulement rapporté. Donc, on ne saura jamais quelle tête a fait exactement la bonne reine Elisabeth en entendant ce propos de son voisin qui était reçu en grand honneur parce qu'il était justement à Londres pour recevoir quelques récompenses ou décorations, je ne sais plus.
Enfin, il a fait ça en toute innocence.
Ah non, mais il était très direct, hein, notre ami Louis Armstrong. De ce côté-là, il craignait pas. Le morceau a été enregistré par quelques orchestres Nouvelle-Orléans, mais comme on vient juste d'entendre un orchestre danois, on va plutôt changer de style et confier cet épisode laxatif à un harmoniciste de blues, né dans le Vermont mais émigré à la Nouvelle-Orléans plus tard, qui s'appelait Greg Isor. Swiss Chris.
Et maintenant, on repart en France. On quitte la reine d'Angleterre et Swiss Chris. Et on repart en France dans un studio légendaire, puisque pratiquement tous les jazzmen venant en France et ayant à faire un enregistrement l'ont enregistré là. C'est le studio Sismo. Et bien sûr, il s'agit d'un musicien français. Là, on ne peut pas faire moigne. Il s'agit du violoniste Stéphane Grappelli.
Et il a tenu à appeler ce morceau Sismo. D'ailleurs, ça a été enregistré au studio Sismo, qui se trouve dans le 18e arrondissement de Paris, et dont le directeur, il faut quand même le dire, et qu'un jour on cite son nom à l'antenne, s'appelle Dominique Samarque. Et c'est un studio tout à fait étonnant parce qu'on s'attend à trouver un immense truc quand on entend parler de ça, hein, Sismo, c'est tellement connu. Eh ben non, c'est un tout petit studio. Les Dumoustiers Stompers y ont enregistré 4 albums et donc on s'est rendu compte qu'à 8 plus une chanteuse, c'était pas très facile de se loger. Le piano à queue, magnifique d'ailleurs, prenait beaucoup de place et les 4 souffleurs étaient en rondognon de l'autre côté, adossés au mur. Et puis, entre les deux, ben, on répartissait le batteur un peu au fond, puis le tuba et le guitariste. Et c'est un de ces endroits où souffle l'esprit, finalement, dans un sens, à tel point que, lorsqu'il a été question de repeindre ce fameux studio, il y a eu une pétition des musiciens de jazz s'opposant à ses travaux, si bien que le pauvre Dominique Samark, ben, il a pu rénover son studio que en ce qui concerne le plafond. Pour tout le reste, ça a été interdit de peindre. Voilà, donc la peinture qui a entendu ce défilé d'éminents jazzmen et bluesmen existe toujours. Un jour, ça finira par devenir un musée. Et en attendant, voici Stéphane Grappelli dans son hommage à Sismo. Mais comme la planète du jazz est toujours soucieuse de vous faire écouter des choses inattendues et très peu répandues, ce n'est pas au violon que vous allez entendre Stéphane Grappelli jouer Sismo, c'est au piano. Car chose peu connue, Stéphane Grappelli est un formidable pianiste, disciple de Artetum, comme vous pourrez le voir à la fin du morceau. Sismo.
Et maintenant, de S, on passe à T, avec Taffy. Taffy, c'est un gâteau particulièrement pas grossissant, puisqu'il est composé que de sucre et de mélasse, avec quelques parfums, n'est-ce pas? Et puis, on bat tout ça pour donner une certaine légèreté à cet ensemble, et ça doit vous coller aux dents, quand même, je pense.
Oui, il paraît même qu'on l'émulsionne avec des cartouches de gaz ou d'air, tu sais, comme on fait quelquefois pour certaines crèmes.
Eh bien, là, vous voyez, on n'avait pas besoin d'avoir de la cuisine savante et très nouvelle. Ça, ça date d'il y a au moins 40 ans.
Ah oui, bon, bien plus que ça, même.
Et peut-être plus.
Alors, ce fameux taffy, évidemment, c'est exactement le genre de choses qu'on vend dans les stations balnéaires, et en particulier à Atlantic City, qui est une sorte de...
Oh, de grande plage avec des immeubles.
C'est le Deauville de New York, on pourrait dire ça comme ça. C'est pas très loin. Et alors, c'est vraiment une station balnéaire hyper, hyper, hyper connue. Et là, le Taffy, duquel il est question dans le morceau qui vient, qui s'appelle donc Taffy, eh bien, c'est ce qu'on vendait justement devant l'établissement où Johnny Hodges, le saxo alto, et Wild Bill Davis, l'organiste, venez jouer pendant la saison d'été à Atlantic City.
Thank you.
Le morceau suivant s'appelle « Tell it like it is », ce qui veut dire « Allez, dites les choses telles qu'elles sont ». En gros, ne cachez pas, ne faites pas de langue de bois, ne dites pas une chose adoucie. C'était quelque chose de très pratiqué par rapport au noir, parce que il y a eu des temps où là on se gênait pas, mais après on disait ah non mais vous pouvez pas rentrer parce que c'est plein, vous pouvez pas aller aux toilettes là, on est en train de les nettoyer, vous pouvez pas. C'était toujours une espèce de des faux semblants, des mensonges, et les noirs disaient mais dites-le, dites-le. Non, vous ne rentrez pas parce que vous êtes noir. Voilà.
Bon. Évidemment, cette formule a beaucoup servi aux Noirs dans les années 60, à la grande époque de Martin Luther King et de la conquête des droits civiques. Alors là, nous l'avons un peu détourné parce que le morceau de référence, Tell It Like It Is, c'est un morceau que nous avons confié à un chanteur un peu langoureux, un peu justement des débuts de ce qu'on pourrait appeler le rhythm and blues. Enfin, vous allez entendre ça. Il s'appelle Little Willie John et Tell It Like It Is, c'est plutôt pour emballer sa cavalière à la surprise partie que pour aller défendre ses droits dans une manifestation. Mais le titre est là.
I love you, darling. For 100 years, and my falling tears tell it like it is. Take my hand, girl, and walk with me. Make my soul feel heavenly. I just can't help it, pretty baby.
C'est pas du tout langoureux, le morceau suivant.
Ah non.
Il s'agit de quelque chose d'un peu pénible quand même, qui s'appelle third degree, c'est-à-dire le troisième degré.
Aïe, 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 aïe.
Il ne s'agit pas d'une brûlure, n'est-ce pas ? Mais ça n'est pas forcément loin, puisqu'il s'agit de la manière d'interroger un supposé criminel par la police et de l'interroger à des degrés divers. Alors, on peut le faire au premier degré, c'est gentil, c'est bon, allez, à vous. Et puis, le second degré, on commence à dire, mais tu vas avoir de gros problèmes, mon gars. Hein. Et puis, attention. Et le troisième, eh ben carrément, c'est les voies de fait. Hein.
Il s'agit de ce qu'on appelle ici les interrogatoires musclés. Et naturellement, quand un pianiste et chanteur de blues noir vous chante le troisième degré, c'est qu'il est quand même un peu réservé à une certaine population, qu'il s'agisse de criminels, de complices ou de témoins. Voici Eddie Boyd qui vous explique la chose dans le détail.
Got me accused of peeping. I can't see a thing. Got me accused of petting. I can't even raise my hand. Bad luck. Bad luck is killing me. Now I just can't stand no more of this third degree. Got me accused of murder. I never harmed a man. Got me accused of forgery. I can't even write my name. Bad luck. Bad luck is killing me. Now I just can't stand no more of this third degree. Got me accused of taxes. I don't have a lousy dime. Got me accused of children. Ain't every one of them mine. Bad luck. Bad luck is killing me.
Maintenant, partons pour Tin Pan Alley. C'est un lieu un peu généraliste, je dirais. Tin Pan Alley, ça veut dire l'allée des casseroles en métal. Et c'est le nom qu'on a donné à New York, à la 28e rue Ouest, entre la 5e et la 6e avenue, où les éditeurs musicaux s'étaient regroupés. Tout le monde était un peu dans ce coin-là. Et les musiciens, eh bien, figurez-vous qu'ils jouaient quelquefois dans la rue et ils y vendaient leurs partitions de musique. C'était leur principale source de revenus. Hein. parce que on en vendait des milliers d'exemplaires. Donc ce tin pan alley, ça avait énormément d'importance pour les musiciens. Et bien sûr, ça n'a rien d'étonnant à ce qu'un pianiste de blues, Sonny Lorne Slim, il en parle.
Oui, parce que, tu sais, ça renvoie un petit peu à ce qui se passait dans les rues de Paris. On le voit d'ailleurs dans un film qui s'appelle Sous les toits de Paris. Les gens étaient avec leurs partitions, ils chantaient dans la rue, ils les distribuaient, et tout le monde chantait ensemble, on achetait la partition. Évidemment, ça c'est une chose qui est peu à peu tombée en désuétude avec l'apparition de la radio et de tout un tas de moyens plus modernes. Mais le nom est resté, et Tin Pan Alley, c'est finalement devenu dans le langage...
Des musiciens, oui.
Ouais, c'est le quartier du showbiz, quoi, finalement. C'est un petit peu ça. Et tout ça s'inscrit dans un autre vocable qui désigne alors carrément New York et qui s'appelle The Big Apple.
Oui, le surnom de New York, c'est la grosse pomme.
Et c'est vrai que vers le milieu de l'année 1929, avant la crise, dès avant la crise, le showbiz a un petit peu fait main basse sur le jazz. Et que le jazz a, à ce moment-là, commencé à émigrer de Chicago à New York. La grosse pomme.
About the roughest place in town. You know to start the cutting and shooting. Soon the sun go down. Hey, hey. What kind of place can that old ladder be? Lord, look like every woman I get. Lord, that'll take away from me. Can't be found. Boy, I wake up every morning in the colors. Tin pan alley bound. Hey, hey, what kind of place can alley be? Lord, every woman I get, you know that it takes away from me. Shot my baby from that joker's zone. Hey, hey, what kind of place can the alley be? Lord, every woman I get, the alley takes a girl away from me.
Après avoir été visiter la grosse pomme, on fait un saut qui est plus qu'un saut de puce, puisqu'on va en Irlande. On va à Tipperary.
Oui, mais le chemin est long jusqu'à Tipperary.
Et c'est en réalité une chanson qui est devenue extrêmement célèbre pendant la guerre de 14, aussi bien chez les Anglais que chez les Irlandais, et en conséquence un peu aussi en Amérique. À Tipperary, il y avait un énorme hôpital militaire anglais. Vous savez, quand vous avez été blessé, quand vous avez souffert, l'endroit où on s'occupe de vous, mais la guerre de 14, c'était horrible, hein, l'endroit où on s'occupe de vous, et vous recevez les soins, et vous recouvrez la santé, vous l'oubliez jamais.
À cette époque, l'Irlande n'était pas encore une république indépendante, ce qui t'explique qu'il y avait un hôpital militaire anglais en pleine Irlande. Et ce chant était tellement connu qu'on l'apprenait de mon temps aux élèves du lycée en troisième en cours d'anglais.
Oui, parce que c'était vraiment, je dis pas que c'était la Marseillaise, mais c'était pas loin, c'était un chant anglais extrêmement connu. C'est une marche, hein, d'ailleurs.
Et alors, figurez-vous que c'est un chant qui se jazz très bien. Ça se jazz même tellement bien que quand les Dumoussier Stompers ont commencé à travailler avec Carole Lee, qui était donc américaine, elle leur a proposé cette chanson. Et après quelques essais, ça s'est mis vraiment à être tout à fait efficace. Donc voici Tipperary par Carole Lee et les Dumoussier Stompers. Et pour la petite histoire, sachez que ça a été enregistré, où ça ?
Au studio Sismo.
Et voilà.
It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest man I know. Goodbye.
Allez, d'Irlande, on repart en France. Et on repart pour des festivals. Et il faut savoir que la France est un grand pays de festivals. D'abord, la France, tout le monde le sait, c'est un pays qu'on visite énormément. C'est un pays très, très touristique. Et les Français ont ce goût de la fête bien faite. Hein, c'était fête bien faite. Les étrangers qui viennent en France sont souvent étonnés de la qualité de toutes les animations, mais très, très diverses, qu'ils peuvent trouver en France. Autant les Français leur semblent un peu gringrin, toujours pas très contents, pas toujours ci, pas toujours là. Mais alors, ils apprécient énormément toutes les festivités qu'on leur propose. Et entre autres, les festivals de musique. Bien sûr, en France, il y a énormément de festivals de musique classique parce que ça se porte bien. Et puis c'est beau quand même, faut pas dire. Hein.
Et puis, il y a un public. Hein.
Et il y a un public. Et qui, en général, a de quoi payer les entrées. Mais le jazz, peu à peu, y a pris sa petite place. Il y a eu donc, en France, énormément de festivals de jazz, petits et grands.
Oui, comme tu dis, petits et grands, alors il faut un petit peu faire la part des choses quand même, parce que beaucoup de festivals donnent une idée du jazz comme étant une sorte de fourre-tout où on met ce qui n'est ni classique, ni baroque, ni lyrique. Et c'est un peu déconcertant parce qu'on y entend à peu près tout et n'importe quoi sous le nom de jazz. Donc il y a une partie seulement des festivals qui sont des festivals vraiment dédiés au jazz et où les gens qui aiment le jazz se retrouvent absolument invariablement. Par exemple, au mois d'août, celui de la Roquebrou. J'espère que vous serez à la Roquebrou au mois d'août, parce que là, si vous n'y êtes pas, vous n'êtes plus nos amis.
Bah, surtout que c'est pas loin, hein, c'est dans le Cantal.
C'est vraiment pas loin, ça commence le 10 août, hein, et puis ça se termine le 14, donc ne manquez pas ça, ça vaut vraiment le déplacement. Et là, nous allons parler d'un autre festival, qui était une sorte de festival dans le festival, car un couple d'amateurs de jazz absolument...
passionné.
Alors, vraiment passionné. Qui, je crois d'ailleurs, n'était pas du tout dans la musique, car il s'agissait d'un couple de pharmaciens. Je crois, hein, sous toute réserve. En tout cas, je les ai rencontrés à l'époque. Ils s'appelaient Monsieur et Madame Charvolin. Et c'est bien de dire leur nom, hein ?
C'est vraiment eux qui ont créé cet étonnant festival d'Orange.
Qui était en fait une page de jazz et de blues, ouverte dans les corrigies d'Orange. Ils ont vraiment fait très fort. Et ça a duré des années et des années. Et c'était un endroit où les musiciens se trouvaient tellement bien. Puis, tu sais, un concert dans le Grand Théâtre d'Orange, c'est quand même pas rien non plus. Qu'il y a eu des hommages. Et nous allons vous donner un hommage en blues à ce festival et à ses organisateurs par le guitariste et chanteur Jimmy Dawkins. Et ça s'appelle...
Tribute, c'est-à-dire hommage, to Orange. Orange. Thank you.
Et pour terminer, voici un souvenir très personnel, puisqu'il s'agit dans nos jeunes années d'une séance d'enregistrement que nous avions organisée et supervisée pour le compte de la marque Philips avec nos amis de l'orchestre de Duke Ellington.
Et principalement, bien sûr, Cat Anderson, un vrai, vrai ami qui venait chaque fois qu'il était à Paris, il venait chez nous. Et ce Cat Anderson, alors Cat, c'est son surnom, bien sûr, il avait véritablement une figure de chat. Imaginez une figure large, avec des yeux en amande, exactement comme des yeux de chat, verts. Sa spécialité chez Duke Ellington, c'était le suraigu. Mais cet homme-là, il aimait tout ce qui était du bon jazz.
Et il voit un véritable culte à Louis Armstrong et sa façon de jouer, je dirais ordinaire, avec toutes les qualités qu'il avait, était une manière inspirée de Louis Armstrong, ça s'entendait très bien. Il ne faisait pas que du suraigu. Et donc nous avons enregistré plusieurs séances pour cet homme-là, et celle-ci s'est déroulée en 1965. Ah, mais dis donc, c'était peu avant notre mariage. Enfin bon, on peut raconter notre vie aux gens. On s'est donc retrouvés au studio, avenue de la Grande Armée, je crois me rappeler. Et là, nous avions monté ça en collaboration avec Claude Bolling et avec des musiciens de son orchestre. Si bien qu'il y avait deux trompettes, deux trombones, deux saxo-ténors, et puis la rythmique avec Bolling au piano, et le batteur d'Ellington à la batterie, Sam Woodyard.
Donc tout par deux, retenez bien.
Tout par deux, très juste. Et Kat avait justement fait un arrangement qui tienne compte de cette gémellité, puisqu'il y avait Dutour à la trompette, Gousset au trombone et Badini au ténor, à côté de Kat, de Buster Cooper et de Paul Gonsalves. Et l'arrangement, eh bien, il fait confronter les trompettes, les trombones, les saxos. Et naturellement, ça s'est appelé...
C'est logique, The Twins, c'est-à-dire les jumeaux. We'll be right back.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.
Thank you.